Je vais d'abord faire le... Je vais procéder à l'appel. Madame Sandrine Andreu a donné procuration à Madame Séchao, Michel Ballong, Madame Beylac, Madame Agnès Bertrand a donné procuration à Madame Beylac, Madame Billet, Monsieur Bobin, Monsieur Boulet,
présent.
Madame Cabrera, Madame Calmette, Monsieur Chantran, Madame Chavant, Monsieur Chérobin,
présent.
Madame Da Silva, Monsieur Drevet a donné procuration à Monsieur Fourégnon, Monsieur Duvivier a donné procuration à Monsieur Roman, Monsieur Fourégnon,
présent.
Madame Gaston,
présente.
Monsieur Gois, Monsieur Landman, présent. Madame Mallet,
présent.
Madame Mallet Santé,
présent.
Monsieur Mangin,
présent.
Madame Montoya,
présent.
Monsieur Horadio,
présent.
Monsieur Roman,
présent.
Madame Séchao. Je vous remercie. Je vais désigner un secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a un volontaire? Tu as déjà l'ordinateur, donc Thierry Chantran. Est-ce que vous avez des remarques sur le procès verbal, sur les procès-verbaux pardon, du 2 et 10 juillet 2020? En l'absence de remarques, je vous propose de passer au vote. Contre? Abstention? Approuvé, je vous remercie. Nous allons passer au point 1, installation d'un nouveau conseiller municipal. Je vous propose, en mémoire de Madame Avadio, de bien vouloir vous lever et de faire une minute de silence. Je vous remercie. Je vous remercie pour cette minute de silence pour Madame Amadio, qui était une femme engagée et qui nous a quittés subitement. Et je vais laisser la parole à Madame Beylac pour dire quelques mots.
J'aurais préféré ne pas avoir prendre la parole ce soir. Avec les circonstances qui nous ont effectivement bien marquées cet été, Christine nous a quittés.
Pardon, merci. Christine nous a quittés en plein cœur du mois d'août. Ça a été pour notre groupe et puis pour les Riemois et les Riemoises une perte. Hein. Une perte parce que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une femme engagée qui défendait des valeurs qu'elle avait chevillées au corps et elle était revenue sur Riem pour vivre parce qu'elle en était partie pendant un certain temps. Et elle avait bien à cœur de s'investir pour sa ville dans laquelle qu'il a vu grandir. Et c'était avec plaisir. Alors, je ne dis pas que Christine, c'était quelqu'un de caractère hein, avec qui on allait pouvoir... on avait des discussions très vives. Hein. Mais c'était quelqu'un qui était entier, engagé profondément et sincèrement. Et rien que pour ça, effectivement, cette minute de silence, l'honneur. Merci de l'avoir faite. Et je voulais aussi remercier des membres du conseil municipal qui nous ont témoigné de leur soutien dans cette période compliquée, à sa famille aussi. Et croyez bien que ça nous a touchés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandrine. Donc, au terme de l'article L270 du Code électoral, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Donc, conformément à cette disposition, Madame Bertrand Agnès, candidate suivante de la liste Riem Avenir, a été installée en qualité de conseillère municipale. Donc je vous demande de bien vouloir prendre acte de cette installation et j'excuse par ailleurs Madame Agnès qui s'est excusée pour son absence. Je vous propose de passer au point 2, remplacement d'un membre de la commission municipale. Donc les
membres des commissions municipales ont été désignés en date du 15 juin 2020. Donc, nous avons 5 commissions municipales, développement durable, finances, travaux, urbanisme et association culture et animation qui fait une seule commission municipale. Chaque commission municipale se compose de 6 membres. Donc, suite au décès de Madame Amadio, il convient de procéder à son remplacement au sein de 2 commissions municipales dont elle était membre, à savoir développement durable et association culture et animation. Madame Bertrand, Agnès, se porte candidate pour intégrer ces 2 commissions. Je vous propose alors de le soumettre au vote si ça vous convient. Contre, abstention. Approuvé, je vous remercie. Remplacement d'un administrateur au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Donc, considérant que Mme Agnès Bertrand présente sa candidature à la fonction d'administrateur du Centre communal d'action sociale de la commune, je vous propose de procéder au vote pour son intégration. Contre, abstention. Approuvé, je vous remercie. Remplacement d'un représentant de la commune au conseil d'administration de l'ADMR. Donc, je vous rappelle que par délibération du 2 juillet 2020, Madame Montoya et Monsieur Roman ont été désignés en qualité de représentants de la commune au sein du conseil d'administration de l'ADMR. Au regard des statuts de l'ADMR et de l'article 4, Monsieur Roman doit être remplacé car, je vous cite une partie de l'article, ne peuvent être adhérents de l'association ni les salariés de l'ADMR, ni les personnes intervenantes dans le cadre du service mandataire et de l'association intermédiaire, ni leurs conjoints. Donc je vous propose une nouvelle candidature, celle de Madame Billet, pour remplacer la candidature de Monsieur Roman.
Oui, est-ce que nous n'avons pas la possibilité de nous porter candidat pour cette représentation?
Si vous le souhaitez.
Je veux bien être candidate.
Donc, Stéphanie? Tu maintiens ta candidature? D'accord, pas de souci. D'accord. Je vous propose. Est-ce que ça vous va qu'on fasse à main levée? D'accord. Donc, pour la candidature de Madame Billet, qui est pour? Pour la candidature de Madame Bailac? Donc, Madame Billet est élue représentante de l'ADMR. Je vous propose de passer au point 5, remplacement du correspondant défense. Donc, par délibération du 2 juillet 2020, Madame Mallet a été désignée en qualité de correspondant défense de la commune. Donc, le correspondant défense constitue en sein de chaque commune un relais d'information sur les questions de défense auprès de son conseil municipal et ses concitoyens. Donc, je vous indique que Madame Mallet souhaite céder cette fonction et que Monsieur Duvivier est candidat au vu de son expérience professionnelle. C'était un sujet qui tenait particulièrement à cœur. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Je vous propose de procéder au vote pour ce remplacement. Qui est contre? Abstention? Approuvé, je vous remercie. Dénomination d'une salle municipale. Monsieur Montamat, Jean-Marc, était un homme très impliqué dans la vie de la commune, dans le monde associatif. Il a notamment œuvré en faveur des plus démunis au sein de l'association des Restos du Cœur. En cela, il fut un personnage marquant de la ville de Riom. Je vous propose de lui rendre hommage en donnant son nom à la salle située dans l'enceinte des locaux des Restos du Cœur. Et une manifestation sera faite évidemment avec la famille auquel vous serez tous conviés. Pour cela, il faut voter. Contre. Abstention. Approuvé, je vous remercie. Approbation de la modification du plan local d'urbanisme de Riom. On va peut-être. Donc en préambule, le PLU a été élaboré en 2013 et avait pour objectif de redonner du lien entre les espaces urbanisés au coup par coup et de façon isolée avec la mise en place d'orientations d'aménagement sur plusieurs secteurs à enjeux de la commune. Le 22 décembre 2017, le Conseil municipal prescrit une modification et deux révisions simplifiées du PLU. Les procédures dévolues engagées répondent à la prise en compte de nouveaux projets et à des ajustements réglementaires qui ont pour enjeu renforcer les orientations du projet de territoire de Riom, adapter le PLU à l'émergence de nouveaux enjeux à l'échelle du territoire, pallier aux éléments de blocage qui entravent la faisabilité des projets dans certains secteurs à enjeu, corriger et ajuster les documents opposables au regard du retour d'expérience et de l'identification de difficultés opérationnelles, mettre en conformité les documents opposables avec les évolutions législatives et territoriales. Donc sur le slide suivant, vous avez l'ensemble de la procédure qui a été élaborée et nous en sommes aujourd'hui au dernier stade qui est l'approbation en conseil municipal. Donc pour le premier point, approbation de la modification numéro 1 du plan local d'urbanisme de Riom, les objectifs, je vous rappelle les objectifs. Le premier objectif était de permettre le développement des activités de loisirs du site TEPACAP, de revoir les règles d'implantation des bâtiments vis-à-vis des voies et emprises publiques et limites parcellaires en zone UA et UB, suite à des difficultés d'instruction des dossiers, de modifier deux OAP sur les zones 1 à U, de modifier les servitudes établies en matière de production de logements locatifs et non locatifs sociaux, de faire évoluer les règles d'interdiction de changement de destination de locaux commerciaux dans les centres-bourgs, d'instaurer de nouvelles règles permettant de redéfinir les droits à construire suite à l'abrogation par la loi Allure des articles 5 et 14 et réaliser quelques évolutions complémentaires. Sur le premier point, permettre le développement des activités de loisirs du site TEPACAP, l'objectif est de créer un sous-secteur autorisant la construction d'une tour de 20 mètres à une zone bien définie, comme vous pouvez le voir sur le plan. Le point suivant, c'est revoir les règles d'implantation des bâtiments vis-à-vis des voies et emprises publiques et limites parcellaires en zone UA et UB. Les règles de recul qui sont imposées sont inadaptées et bloquent l'évolution de constructions existantes selon plusieurs cas de figure dans ces deux zones. Le règlement est complété pour mieux exempter les annexes de dispositions trop contraignantes. Les annexes pourront être implantées à l'alignement de voies et espaces publics existants ou à créer avec un recul de 0,5 mètre minimum. Comme je vous disais, il y a deux OAP qui ont été revues dans cette modification du PLU. D'abord, celle de l'Escouboué, dont vous pouvez voir les éléments d'avant et d'après. Ce qui évolue notamment, c'est l'accès vers le centre-bourg, puisqu'il n'est pas possible, quand vous vous déplacez sur place, de pouvoir le réaliser. Et aussi une variation de la densité entre le cœur du bâtiment, le collectif, un collectif en haut et des habitations moins denses sur le tour du terrain. Je vous propose de passer, si vous n'avez pas de questions, à l'OAP des Catalans. Oui, pardon, vas-y. Alors, en fait, la difficulté qu'on a, oui, parce que c'est peut-être pas évident, et dans le suivi, en effet, c'est qu'aujourd'hui, on a deux propriétaires qui sont propriétaires du terrain et qu'aujourd'hui, il est compliqué à la fois sur cette OAP de pouvoir faire l'accès en haut, tel que je vous le dis, puisqu'en fait, ce n'est pas accessible par le haut. Donc, il fallait revoir l'orientation pour justement que ce ne soit pas contraignant, puisque c'était impossible de le réaliser tel quel. De aussi travailler, et c'est dans une vue globale de la modification du PLU, sur la question de la densité. Aujourd'hui, on a un SCOT qui nous impose 25 logements l'hectare de densité sur l'ensemble de la commune, ce qui pose de véritables difficultés, puisque autant que ça s'entend sur le centre-bourg, autant quand vous vous écartez du centre-bourg, faire 25 logements à l'hectare, vous dénaturez totalement le village et vous proposez seulement des habitations complètement homogènes, alors qu'on a besoin de véritablement d'hétérogénéité dans des petits logements denses et dans des logements avec plus d'espace et de jardin. Donc on a travaillé avec les services de l'État, ça n'a pas été évident, pour essayer de reconnaître que autant centre-bourg, et c'est pour ça qu'il y aura un collectif en haut, il y a du sens d'avoir de la densité, pour pouvoir négocier sur d'autres parcelles, moins de densité, pour garder un équilibre sur le territoire. Voilà.
Vous parlez de la modification, justement la numéro 1, de densité, notamment par l'intérêt de la loi Allure. vous en parlez sur les zones UA, UB et sur les OAP 1 AU. Est-ce que, effectivement, sur ces zones-là, on est toujours sur un rythme de 25 logements à l'hectare?
Alors, en effet, il y a 25 logements à l'hectare. Avec le collectif, on aura peut-être un petit peu plus de...
Sur cette zone-là, mais les zones UA, UB et les OAP 1 AU, elles sont aussi sur d'autres zones de la...
Alors, on a une autre OAP. Sur l'autre OAP, vous verrez, on peut passer directement dessus, comme ça vous la verrez en même temps. On a pu négocier moins de logements à l'hectare, à savoir 15 logements à l'hectare. Sur le reste du territoire, par rapport à ces 25 logements à l'hectare qui nous sont imposés, ils sont en cours d'évolution, puisqu'en fait il y a une révision du SCOT aujourd'hui qui est en cours, et que c'est un sujet que je redis, réitère à chaque réunion que je peux avoir sur le SCOT ou sur, avec les différents intervenants, à la fois services de l'État, mais aussi représentants élus au SCOT. Donc je les alerte systématiquement sur le fait que nous, RUEM, on souhaite avoir moins de densité, ou en tout cas pas imposer de façon uniforme sur la ville, et qu'en même temps c'est un souci aussi pour les autres collectivités, et qu'il faut prendre ça vraiment au sérieux.
J'ai bien entendu ce que vous venez de dire. Je sais que les services de l'État corroborent, parce que le SCOT, c'est aussi une négociation, ça ne s'applique pas comme
totalement.
Ça, strict au sens.
Non, c'est pas une négociation une fois qu'il est appliqué, c'est une négociation dans sa rédaction. Mais une fois qu'il est rédigé, ça s'impose.
Oui, j'ai bien entendu. C'est dans cet objectif-là que j'en parle justement. Aujourd'hui, il y a quand même une corroboration qui est faite au niveau du SCOT entre l'étalement des zones à construire et la densification. Si bien que les services de l'État l'expliquent très très bien, si jamais vous avez un étalement du nombre d'hectares sur la commune, surtout si sur l'ancien PLU vous n'aviez pas consommé cette surface constructible et que vous l'étendez, ils sont plus enclins à vous obliger la densité. Si vous réduisez cet étalement, il y a des choses qu'ils entrevoient et ils essayent à un moment donné de prendre aussi la granulométrie, on va dire, comme ça, de surface de l'habitat existant et le mariage, pour à un moment donné essayer de descendre sur... Je ne sais pas si tout le monde apprécie ici ce que ça fait entre 20 et 25 logements à l'hectare, puisqu'on est sur cette fourchette-là. Ça représente des terrains entre 400 et 500 mètres carrés. Si jamais les terrains sont plus importants, ça vous oblige à faire des collectifs dans ces zones-là. Ça fait aussi, dans l'intégration en cascade de l'urbanisme, tout ce qui en découle en termes d'accueil de population, en termes de services et autres. Je ne suis pas sûr ici que l'ensemble des membres qui sont au conseil municipal aient vraiment envie de passer sur cette tranche-là pour RUEM demain. Moi, j'interviens avec prudence sur ce genre. Alors, vous l'expliquez sur le l'escouboué, avec le collectif en mons, effectivement, ça a du sens. Sur le catalan, vous avez diminué à combien?
On a diminué entre 15 et 20 logements à l'hectare. Et en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que, ce que vous dites, je l'entends et je ne le contredis pas. Par contre, on a négocié avec les services de l'État de faire un collectif à l'escouboué qui avait du sens puisque c'était en centre-bourg, mais par contre, du coup, en contrepartie, de baisser la densité. Donc, du coup, ça fait un équilibre entre les deux,
oui.
De baisser la densité des Catalans.
Oui.
C'est une compensation, voilà. On avait aussi essayé de négocier en se disant que, comme on avait de l'habitat vacant qui était en cours de rénovation par des particuliers, je vous donne un exemple, une maison qui était divisée en plusieurs lots d'habitation, de dire, mais on compense par ça aussi. Regardez, on densifie plus en centre-bourg, donc allégez-nous. Ça, ils ne l'ont pas souhaité de pouvoir faire cette compensation-là. C'est quelque chose quand même que je continue à porter, parce que je pense que, en effet, si on ne veut pas avoir des mono-formes d'habitation à 400 mètres carrés, qui, à mon avis, paupériserait la ville, parce qu'il nous faut de tout. Il faut pouvoir accueillir une diversité de population, des gens seuls, des familles monoparentales qui ont besoin peut-être de changements d'ans.
La mixité de l'habitat.
Exactement. De petits lots pour des personnes qui sont en accession à la propriété avec des petits jardins, mais aussi de gens qui ont des moyens et qui veulent de grands espaces et qui viennent à la campagne parce qu'ils veulent ces espaces-là. Et ça, c'est quelque chose que je porte et qu'on porte tous. Et si vous venez en soutien, ce sera au contraire avec plaisir pour renforcer cette conviction. Parce qu'aujourd'hui, sur le SCOT, il faut défendre ça, mais aussi auprès des services de l'État Et c'est un véritable enjeu, à mon avis, de développement de nos territoires, si on ne veut pas que la ruralité soit destinée juste à paupériser et à prendre des populations qui seront à la fois loin de l'emploi, loin de tout. Je pense qu'il faut pouvoir vraiment avoir cette mixité sociale.
Oui, et puis surtout que la mixité, là, notre but, c'est déjà de fixer les populations que nous avons déjà. Et qui sont en fait originaires de Riom et qui, par le biais des études, de l'emploi ou autre, on perd parce que dans d'autres territoires, ils ont une offre qui correspond à leurs besoins, alors qu'à Riom, elle n'est pas aujourd'hui ou pas suffisamment. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas forcément les points que vous avez précisés, sur les points bien précis sur lesquels vous intervenez pour, à un moment donné, arriver à réduire. Et effectivement, j'essaierai, si jamais je suis d'accord et qu'on partage un certain nombre d'idées, d'aller dans ce sens. Le problème, c'est au point numéro 7. Instaurer de nouvelles règles sur les zones UB, UC, 1AU permettant de définir les droits à construire suite à l'abrogation de la loi Allure, article 5.
Alors, je propose qu'on fasse les deux autres points et on va sur celui de la fin, c'est le dernier, je crois.
Exactement.
C'est ça?
Oui, okay. Parce que là, il est générique, celui-là, il n'est pas appliqué rien qu'à une seule.
Donc, je propose, on a, et après, bien sûr, pour échanger dessus. Donc, le point suivant, modifier les servitudes établies en matière de production de logements locatifs, dont des locatifs sociaux. Le PLU actuel précise dans son règlement que toute opération de plus de 400 m² de surface de plancher ou de plus de 4 lots est autorisée à condition qu'elle comporte au minimum 40% de surface plancher affectée à un logement locatif. En outre, 60% des logements locatifs doivent être affectés à du logement social. Toutefois, l'effet du seuil induit par cette disposition se traduit souvent à Riom par l'émergence de petites opérations de moins de 400 m² ou de 3 lots, permettant aux porteurs de projets de ne pas être soumis à ces contraintes et de production de logements locatifs sociaux, notamment dans le cas de petits projets où la faisabilité s'en trouve remise en cause. La disposition générale est supprimée dans toutes les zones, ce que nous vous proposons. Dans la zone 1AU, est ajoutée dans les espaces identifiés comme secteur à programme de logements sur des documents graphiques ou dans les orientations d'aménagement et de programmation au titre de l'article L151-15 du Code de l'urbanisme, les opérations comportant une partie minimale de logements locatifs sociaux, dans le secteur 1AUA, 30% minimum de logements créés devront être des logements locatifs sociaux. Le point suivant, c'est donc une volonté de faire évoluer la règle d'interdiction de changement de destination des locaux commerciaux dans les centres-bourgs. Donc là, vous avez un schéma qui vous présente avant et après, où on a redécoupé un petit peu l'impossibilité de changer les locaux commerciaux, afin de coller un peu plus à la réalité de notre commune et d'éviter justement d'avoir des pieds d'immeubles vacants, pour que le coup, ils ne seraient pas utilisés en commerce. Le point suivant, instaurer de nouvelles règles, donc c'est le point sur lequel vous voulez qu'on nous échangions, instaurer de nouvelles règles permettant de redéfinir les droits à construire suite à l'abrogation par la loi Allure, les articles 5 et 14. Le PLU en vigueur encadrait la densité par l'application d'un COS dans les zones UB et UC. Suite à la mise en œuvre de la loi Allure, ces dispositions ont été supprimées. Les articles 5 et 14 du règlement ont été abrogés par la loi Allure. Une mise à jour du règlement est effectuée afin de supprimer leurs dispositions. En parallèle, un coefficient d'emprise au sol de 15% est défini en zone UC. Je vous laisse la parole.
Voilà, c'est là que, effectivement, sur la généralité après des zones, la cohérence que vous essayez de définir tout à l'heure, à mon avis, se perd un peu parce que, en fait, le coefficient des sols, le COS, disparaît. Il y a deux choses, c'est qu'on est vraiment sur le nombre de logements à l'hectare aussi qui revient sur ces zones-là. Donc le problème reste entier, même si sur d'autres zones, vous l'avez montré, vous essayez de le régler. Et là, par contre, c'est une généralité sur l'ensemble de ces zones-là, UB, UC, 1AU, sur l'ensemble de la commune, ça représente quand même un paquet d'hectares. Et il y a un autre effet pervers, c'est que si le COS disparaît, que deviennent effectivement les parcelles déjà construites? Vous avez des grandes parcelles à Riom sur lesquelles il y a des habitations à 2000, 2500, 3000 m². Et là, on a vraiment cette paupérisation que vous dénoncez tout à l'heure, mais là par contre qui continue à s'appliquer par ça, parce que le découpage des terrains va aller en s'amplifiant.
Alors c'est vrai que c'est un sujet sur lequel toutes les communes sont confrontées. C'est aussi pour ça qu'on a mis un coefficient d'emprise au sol pour essayer de le limiter. Mais comme vous le dites aujourd'hui, la situation n'est pas totalement résolue. C'est ce que je vous disais, c'était du fait que ces 25 logements à l'hectare continuent à s'imposer sur tout le territoire. Ça nous impacte forcément. Et après, sur la question de la divisibilité des terrains, sur lesquels on le voit, c'est vrai qu'il y a un travail à faire sur ce sujet. Là, on a voulu limiter un petit peu les effets pervers de la loi Allure et de la suppression du COS, mais il y a encore du travail à faire, c'est évident.
Donc en fait, le fait d'accepter la modification numéro 1 implique qu'à un moment donné, comme il reste du travail à faire, à partir du moment où cette modification est applicable à l'urbanisme riomois, effectivement, sur toutes les zones, UB, UC et 1AU, on aura cette densité imposée et on aura cette possibilité.
Mais c'est déjà le cas.
Oui.
Ça, c'est la loi Allure. Là, on minore les effets de la loi Allure. C'est-à-dire que sans ça, c'est pire et il vaut mieux commencer par étapes. Parce que on assouplit un petit peu, on permet de contrer un petit peu la loi Allure. C'est pas dans l'autre sens.
Oui, non, mais la loi Allure, elle date de 2014, donc effectivement, elle rend caduque effectivement l'article 14 que vous dénonciez tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on l'entérine. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, si vous aviez des dépôts de permis ou des modifications d'urbanisme qui iraient dans ce sens, vous ne pouvez pas le contrer avec le PLU actuel. Le but, c'est de le contrer. Mais là, par contre, vous l'admettez.
Mais non. En fait, on ne pouvait pas le contrer puisque c'est la loi Allure qui prévaut. Et donc, notre PLU n'était pas compatible et ne pouvait pas s'appliquer à toute personne qui y allait contre, en qui disait ben non, vous ne pouvez pas appliquer votre article. Donc là, juste, on va minorer l'effet de la loi Allure. Je ne dis pas que c'est pleinement satisfaisant, mais c'est déjà un travail. Comme je travaille et je vous invite à travailler avec moi sur le fait qu'on baisse la densité qui nous est imposée sur toute la ville. Enfin voilà, il y a un vrai travail de fond, mais ce n'est pas que le PLU qui peut agir, c'est aussi les autres documents qui s'imposent à nous.
Oui, oui, j'avais bien compris, mais vous parliez juste de la surface planchée, il y a la distanciation par rapport aux clôtures aussi. Il y a d'autres. En fait, le fait de l'article 14. Implique à un moment donné de mettre en place un panel de leviers parce qu'on ne peut pas la contrer que par un seul coefficient d'emprise au sol qui n'y est plus. Donc c'est la
mais on l'a fait aussi dans le PLU par rapport aux distanciations, par rapport à voirie et tout ça, on en a parlé.
Donc en fait vous avez un nombre de logements à l'hectare que vous devez pouvoir annoncer qui baisse sur ces zones-là.
Bah, c'est l'objectif. Du fait qu'on met une emprise au sol de 15%, forcément, ça diminuera le nombre de logements.
Mais après, je vois l'objectif sur les autres, parce qu'effectivement,
parce qu'il faudrait faire des OAP sur tout. Et aujourd'hui, on fait rarement des OAP sur tout, et ça se demande une réflexion sur l'aménagement. Donc d'abord, il faut d'abord qu'on puisse travailler sur des premiers terrains constructibles à proximité des centres-bourgs pour l'aménagement. Après, c'est des réflexions qu'il faudra se poser.
Donc aujourd'hui, terrain de 2500 m² qui est en zone UB, vous n'êtes pas en capacité de me dire combien de logements il peut supporter en sachant qu'il y en a déjà un de construit.
Ah si, on peut faire des projections en fonction de l'implantation du bâtiment initial, en fonction de la voirie. C'est des projections qu'on peut faire pour chaque.
Mais je suppose que vous les avez faites.
On a fait en partie, mais on ne l'a pas fait pour la totalité de la ville.
Oui.
C'était une simple modification, on ne revoyait pas totalement le PLU. On a fait ces modifications-là parce qu'il a été vite caduc, puisque en 2013 il a été adopté, en 2014 il y a eu la loi Allure. Donc on a voulu regrouper l'ensemble des modifications auxquelles on pensait qu'il était nécessaire, ce qu'on a fait. Mais il est évident que d'ici en cours de mandat, il faudra faire une refonte globale du PLU.
Je ne vous le fais pas dire.
Mais honnêtement, c'était compliqué. Et je pense que quand on est élu, on ne peut pas balayer d'un revers de la main ou tout remettre en question des projets de nos prédécesseurs, qu'on les suive ou qu'on ne les suive pas. Le PLU venait juste d'être fait. Je pense qu'il aurait été malvenu de dire on recommence tout depuis le début. Je pense qu'il y a une sorte de continuité. Enfin, il y a une continuité de la personne publique. On a essayé de le modifier, de l'adapter. Il est évident qu'il va falloir retravailler plus en fond sur la question de la réactualisation du PLU. Mais pour le coup, c'est un travail de longue haleine sur d'autres sujets et qui va nécessiter, à mon avis, facilement 2 ans de travail pour être vraiment précis et faire toutes les projections nécessaires.
Oui, ce que vous dites est exact. Vous n'avez pas peur qu'il y ait une promotion immobilière qui s'engouffre quand même dans la brèche qui reste quand même au quart fermé.
Alors, avant le Covid, je vous aurais dit non. Post-Covid, on pourrait croire que ça pourrait arriver parce qu'il y a une dynamique qui a été lancée. Pour autant, aujourd'hui, j'en vois pas les effets sur la ville. Il y a eu un petit moment d'excitation le lendemain, mais c'est très vite relativement apaisé. Donc je pense qu'il y aura une envie des gens de venir en ruralité, mais qui va se faire progressivement et pas de façon violente comme on aurait pu le croire au lendemain de la crise sanitaire. C'est qu'une vision de ma part. Mais après, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et il faut pouvoir commencer à y travailler et travailler de façon sérieuse, ça c'est sûr.
Donc vous êtes prête à commencer ce travail?
Oui, non, mais de toute façon, c'est quelque chose qu'on... Enfin, lorsqu'on a fini et que, avant les élections, on s'était dit qu'il fallait réengager un travail assez proche pour revoir complètement le PLU. Ça, c'est des choses qu'il faudra refaire de toute façon. Je vous propose de poursuivre sur suppression du pastis à H. La loi dite loi Macron a participé à assouplir les conditions de constructivité en zone agricole. Ainsi, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ces dispositions induisent la suppression du pastillage AH en zone A pour l'évolution des logements existants. Donc on vous a mis la projection sur la ville, ce que ça implique. Donc supprimer le pastillage AH, non, c'est peut-être l'autre slide. Donc les traductions réglementaires. Donc autoriser l'extension de construction à usage d'habitation existante à la date d'approbation du présent PLU, dans la limite de 30% de la surface planchée avec un minimum de 200 m² de surface de plancher totale. Les créations d'annexes à condition qu'elles se situent à moins de 30 mètres du bâtiment principal, que leur surface, excepté pour les piscines, n'excède pas 50 m² de surface de plancher ou emprise au sol créée à compter de la date d'approbation du PLU, que leur hauteur n'excède pas 4 mètres sous sablière. La surface de plancher et l'emprise au sol totale maximale, existant et extension, ne devront pas dépasser 200 m². La surface de plancher et l'emprise au sol totale maximale des annexes ne devront pas dépasser 50 m², exception faite des piscines. Enfin, on a profité de cette modification du PLU pour réaliser quelques évolutions réglementaires, à savoir, après plusieurs années d'application, certaines dispositions figurant dans le règlement du PLU nécessitent des adaptations, notamment pour faciliter l'instruction des autorisations d'urbanisme. La procédure est également mise à profit pour corriger les erreurs matérielles identifiées dans le PLU, notamment dans le règlement. Le secteur existant UXA a été ajouté dans les dispositions générales, l'article UA7 a été corrigé. Les définitions et références des hauteurs, des distances par rapport aux voies emprises publiques et limites séparatives et de l'emprise au sol sont harmonisées et précisées dans les zones concernées. Donc, l'ensemble de ces modifications a été fait en partenariat avec le service instructeur qui rencontrait des difficultés dans l'instruction du fait que ce soit d'imprécisions, soit d'erreurs matérielles. Est-ce que vous avez des questions sur cette modification du PLU? Je vous propose de procéder au vote. Contre? Abstention. Approuvé, je vous remercie. Nous passons à la révision allégée numéro 2. Donc les objets de la procédure et la localisation du projet. Donc l'objet de la procédure, c'est la création d'un stécal pour l'évolution d'un centre de vacances, à savoir le Ranch Occitan. Donc c'est ce centre de vacances est occupé par le comité d'entreprise de BNP Paribas. C'est un site qui occupe près de 8 hectares. Il est composé de 8 bâtiments existants, répondant aux besoins d'hébergement, de restauration, de stockage de matériel, d'animaux et d'activités au manège à chevaux. Il compte également 2 salles de classe interdites au public pour cause de vétusté, dont vous verrez l'état dans le prochain slide. Et le site est actuellement classé en zone A, ne permettant pas d'évolution du bâti hors activité agricole. Donc, l'objectif, c'est reconnaître une activité de loisir existante à de la commune, puisque la catégorie A ne représente pas du tout l'activité qui est exercée par le Ranch Occitan. Le Ranch Occitan est implanté sur la commune depuis les années 80. Auparavant, c'était même un centre équestre, donc même là, ce n'était pas forcément agricole. Il est classé en zone agricole alors que l'activité principale est liée au tourisme et au loisir. La procédure permettra de reconnaître l'activité existante et permettra la réalisation du programme d'extension des locaux du centre de vacances du Ranch Occitan. Le centre de vacances a besoin en effet d'étendre un bâtiment pour les besoins de son activité. La procédure permettra de répondre aux besoins d'extension de façon encadrée, 300 m² d'emprise au sol et 8,5 m de hauteur. Donc, sur le slide suivant, vous avez la localisation et une vue d'ensemble du site. Et si on va sur le slide encore suivant, vous voyez l'état du préfabriqué aujourd'hui actuel qui est hors d'usage et c'est pour ça qu'ils ont besoin de faire une extension qui sera pour le coup contre le bâtiment comme vous verrez au prochain slide. Les objectifs, En réponse à la demande de l'exploitant, la mise en place du STECAL a pour objectif d'une part de réaliser les travaux nécessaires à la mise en activité PMR du site et d'autre part de créer deux salles d'activité en remplacement des deux salles de classe inutilisables et non réhabilitables. Ce sont des préfabriqués qui datent des années 60. La justification, il s'agit d'un unique STECAL du territoire pour pérenniser l'activité existante que la commune souhaite accompagner. Ce site a accueilli 16 séjours en 2019, soit plus de 3700 nuitées. Il répond également aux besoins d'hébergement du LEP, le SAVES de Riom. L'objectif poursuivi n'est pas le développement de l'activité, mais la modernisation nécessaire de l'équipement pour répondre aux besoins liés à la mise en accessibilité des personnes à mobilité réduite et au bien-être des publics accueillis. Donc là, vous avez la projection du plan projet tel qu'il le souhaite, donc avec les deux classes et deux terrasses extérieures. Et le plan qui suit vous donne peut-être plus une vision qui montre bien qu'en fait il reste vraiment contre le bâtiment existant. Donc dans le slide suivant, le périmètre donc ce cas couvre environ 1700 m², il n'intègre que le bâtiment principal et l'extension programmée. Il s'agit de prévoir l'évolution des installations en place sur le périmètre occupé. L'impact. Le projet couvre un espace déjà occupé par l'activité de centre de vacances. Il n'aura pas d'impact sur l'activité agricole, les espaces forestiers, les zones naturelles, les continuités écologiques. On voit vraiment bien que c'est extrêmement localisé et qu'il n'y aura pas de possibilité d'en dévier. Et si vous regardez le slide suivant, vous voyez bien que le zonage est très précis. Le ALA, sur le schéma d'après, est vraiment autour du bâtiment principal.
Donc ça c'est réellement la zone à construire.
C'est le seul endroit où ils peuvent faire l'extension.
Voilà, c'est-à-dire à coller au leur.
Exactement, il n'y a pas d'autre possibilité.
Exactement.
Donc du coup, ce qu'on vous propose, c'est la création d'un sous-secteur AL et ALA. Donc c'est du coup, on passe sur une activité de loisirs, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un secteur A, l'ensemble de zonage, on passe en AL pour reconnaître l'activité de loisirs. Et un sous-secteur ALA qui a pour but d'encadrer l'évolution des constructions de loisirs du secteur sans permettre de nouvelles constructions par ailleurs. Occupation du sol admise dans le secteur AL, les activités de loisirs, aucune construction nouvelle y est autorisée. Dans le secteur ALA, les extensions de construction et installations de tourisme et de loisirs. L'emprise au sol, dans le secteur ALA, les extensions et constructions nouvelles sont autorisées dans la limite de 300 m² d'emprise au sol, à compter de la date d'approbation du PLU. Hauteur, dans le secteur ALA, la hauteur de construction ne doit pas excéder pour le bâtiment à usage d'hébergement touristique et de loisirs, 8,5 m. Donc on s'est calé sur l'existant, évidemment. Est-ce que vous avez des questions ? Je propose de procéder au vote. Contre, abstention, approuvé, je vous remercie. Nous passons au point suivant qui est objet de la procédure, localisation du projet. Donc c'est un projet, c'est une déclaration de projet de mise en compatibilité du PLU. Donc l'objectif est la création d'une zone d'équipement public destinée à accueillir les terrains d'entraînement pour les activités sportives de football et de rugby. Donc le projet revêt un caractère d'intérêt général et qui est rendu nécessaire pour offrir aux clubs sportifs locaux des conditions d'accueil et de pratique satisfaisantes. Le projet est d'intérêt général porté par la communauté de communes Cœur de Garonne. Le site c'est le site de l'Escouboué, qui est les propriétés communales, est stratégiquement positionné aux portes du noyau urbain pour accueillir ces équipements. Le site est actuellement classé en zone A, inadapté à la construction d'équipements publics. Donc les terrains concernés par le projet doivent être classés en zone UE, dont la vocation est la suivante. La zone UE est réservée à l'implantation d'équipements publics et d'ouvrages techniques comme la déchetterie ou la station d'épuration. Ces zones UE sont localisées sur des secteurs spécifiques isolés du secteur d'habitat. Le PADD du PLU 2013 n'a pas spatialisé le secteur d'équipement à proximité du quartier d'Escouboué, qui est identifié comme le secteur de développement permettant une recomposition et une densification du tissu urbain à plus ou moins long terme. La procédure adaptée pour faire évoluer le PADD, le règlement et le zonage du PLU pour faire aboutir ce projet est celle de la déclaration de projet. La procédure doit se poursuivre telle qu'il vous est présentée au tableau, à savoir une phase d'étude avec la déclaration du projet, un travail sur la mise en compatibilité du PLU, une phase de consultation avec bien sûr la saisine des autorités environnementales, la saisine de la CDPENAF et des examens conjoints, l'enquête publique, la déclaration du projet et la validation après en conseil municipal pour mettre en compatibilité le PLU. Est-ce que vous avez des questions sur ce dossier ? Oui.
Alors, par rapport à ce projet, surtout à la localisation du projet, moi, pour en avoir discuté avec les associations concernées par,
par ce projet, ça paraît compliqué de pouvoir organiser. Alors, moi, je serais favorable à condition qu'il y ait effectivement un projet dimensionné pour la compétition, les vestiaires, un retournement des bus, enfin, un projet vraiment dans son ensemble qui répondrait aux besoins des associations, tant rugby que foot, ou que rugby ou que foot, pour alléger l'occupation des terrains sur le haut de, actuel. Je ne suis pas sûre aujourd'hui que le projet soit dimensionné pour ça. Pour le coup, c'est en termes de questions. Est-ce que le projet est dimensionné pour répondre à tous ces besoins?
Alors, en effet, il n'est pas dimensionné pour la compétition, puisque ce sont des terrains d'entraînement. Et c'était une question d'avoir des terrains d'entraînement. Mais je vais te laisser la parole parce que tu étais très actif sur le sujet. Thierry.
Le projet, bien sûr, s'est fait en concertation avec les associations, et ce depuis le départ. Au début du mandat précédent, plusieurs perspectives étaient en cours, notamment celle d'envisager un synthétique sur le stade BC. Il s'est avéré que, et ça c'est un bilan qu'on a fait avec la fusion, notamment l'expertise de Caser là-dessus a été précieuse, de constater que c'était cette surutilisation qui entraînait une dégradation du terrain du stade BC, qui au final n'est pas si mauvais. Le stade BC globalement a besoin d'être aéré, d'être soulagé, mais son activité, enfin son état en lui-même n'est pas si mauvais. Donc il est apparu que le besoin était un besoin de stade d'entraînement et de stade de pratique plus que de stade d'honneur. Homologuer un terrain pour la compétition, un, ça demande une superficie foncière qui n'est pas disponible à cet endroit-là. Deux, ça demande ensuite des équipements annexes qui, eux, empêchaient de faire le projet tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire d'avoir un terrain RB qui va permettre une pratique de type entraînement et un demi-terrain synthétique qui, lui, va permettre de maintenir une forme d'activité, alors pour une partie des clubs d'école, pendant les temps de pluie. Le projet à terme, mais bon, ça c'est les perspectives à long terme, c'est d'envisager aussi une reprise du stade BC sur le haut pour avoir un projet cohérent sur l'ensemble du territoire de la commune. C'est quelque chose qui a été travaillé d'assez près avec les associations depuis longtemps. Le besoin premier, je reviens là-dessus, c'est un besoin d'entraînement. On a, au niveau des matchs, assez peu de conflits en termes d'utilisation. Par contre, on a, au niveau des entraînements, une surutilisation du terrain qui entraîne bien des conflits sur parfois des demi-heures avec des équipes qui doivent s'entraîner. Enfin, bon, je suis très bien placé pour le savoir, puisque j'ai mes deux gamins qui sont au foot, et je vais régulièrement voir le rugby. Je discute avec eux de manière quasiment constante pour comprendre que la problématique, c'est une problématique d'entraînement. Donc c'est une problématique de terrain sur, pas les dimanches et les samedis, mais lundi, mardi, mercredi, puisque tous les créneaux sont complètement occupés. Là-dessus, donc, objectif, bien sûr, travailler sur un terrain d'entraînement, je le répète, avec un éclairage, avec tout le nécessaire pour permettre un entraînement, notamment nocturne, puisque c'est très demandé. Enfin, on le sait, quand les lycéens, par exemple, reviennent, ou les seniors, ce ne sont pas des professionnels, bien sûr, du sport, donc c'est des gens qui ont une activité à côté et qui ne peuvent s'entraîner que le soir. Donc, le projet est dimensionné dans cette idée-là. Est-ce qu'il y aura des bus ? Non, puisque c'est un terrain d'entraînement. Est-ce qu'il permettra de soulager les terrains principaux ? Bien sûr. Et donc, de permettre... Alors, est-ce qu'il y aura plus d'entraînement sur le terrain du stade BC ? Non plus. Il y en aura certainement encore, mais du fait de pouvoir délocaliser certains entraînements, on aura moins de conflits, on aura un meilleur état du terrain du stade BC, et donc on aura sans doute un meilleur état général à terme de ce stade-là.
J'ai bien écouté l'explication sur l'entraînement. L'entraînement, déjà, ça demande quand même le fait de pouvoir quand même avoir des vestiaires, d'avoir un minimum.
C'est pour ça qu'on fait
accueillir
cette mise en conformité.
Voilà. Et ensuite, notamment sur l'école de rugby, vous avez quand même une entente de plusieurs communes où à peu près 80% des licenciés sont des licenciés riomois et qui vont faire une partie de leurs entraînements et aussi de leurs compétitions à l'extérieur de Riom. Ça, c'est une problématique que je ne vous ai pas entendu dire dans votre explication, mais que vous connaissez.
Alors, je reviens juste sur ce que vous êtes en train de dire, sur le pourcentage de riomois, c'est pas tout à fait ça. On a eu une réunion donc avec le club, l'école de rugby, c'est pas le club, mais c'est la partie école donc, du SCR, et on s'est questionné notamment sur la provenance, puisque on savait ici, l'entente se terminant, il n'y avait pas la possibilité de reporter sur les stades actuels l'ensemble des entraînements qui étaient proposés, donc il fallait les reporter ailleurs. Plusieurs stades étaient envisageables, Vérat, Sainte-Foy, mais aussi d'autres lieux, et on travaille avec Puy de Touge, on travaille avec Gratens, on travaille avec Lavernos pour envisager donc un déplacement par rapport à la provenance de la majorité des joueurs. L'idée n'est pas, alors on n'est pas à 80% triomois, contrairement à ce que vous évoquiez, bon, c'est une façon de voir les choses. Donc on n'est pas à 80% triomois, on est sur le territoire de l'ancienne Savès, mais on a quand même déterminé avec les entraîneurs donc, de cette section-là, hein, on n'a pas fait ça de ex nihilo, on a déterminé avec les entraîneurs de cette section-là que grosso modo c'était Gratens puis de Touge qui étaient sans doute les plus adaptés pour pouvoir reporter les entraînements sur ces terrains-là.
Sachant qu'on fait quand même ces terrains-là pour justement relocaliser les entraînements sur la ville. Et d'ailleurs, les projets de terrain vont commencer eux dès maintenant puisqu'ils n'ont pas besoin de cette adaptation du PLU pour pouvoir commencer. Et en fait, on vous présente là cette adaptation pour pouvoir faire les vestiaires qui sont nécessaires. Donc le projet se fera en deux phases, c'est vu avec l'intercommunalité et y compris les services de l'État pour les subventions.
En fait, on travaille à deux échéances. Une échéance immédiate qui est celle de répondre aux besoins que vous évoquiez et sur lequel on n'a pas de solution directe sur l'IEM, puisqu'un terrain, ça ne sort pas d'un claquement de doigts, mais vous le savez ça. Et ensuite, on a une échéance à moyen voire long terme qui est celle, effectivement, de permettre un terrain d'entraînement et ensuite une réflexion des stades entour, dont notamment un projet qui est à l'étude, qui est celui de l'éclairage au niveau du stade biliaire, qui permettra là aussi de soulager le stade blessé en permettant certains entraînements nocturnes. Alors pas forcément ceux qui abîment le plus le terrain, mais au moins les jeunes, etc. Donc c'est une vision globale sur ce projet-là.
Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je propose de procéder au vote. Contre ? Abstention ? Approuvé, je vous remercie. Nous passons au point suivant, admission en nos valeurs. Et je vais laisser la parole à Rémi Mangeon.
Donc, Madame le maire propose à l'Assemblée de prescrire la déclaration de projet relative... Non, pardon. Madame le maire rappelle à l'Assemblée que durant l'exercice 2020, comme cela a été annoncé à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, la municipalité poursuit son action de fiabilisation des comptes. Elle expose que la commune émet des titres de recettes à l'encontre des tiers pour des sommes dues sur le budget principal de la ville. Or, certains titres restent impayés malgré les diverses relances du Trésor public. Elle précise que sur demande du trésorier d'Orieux, il est soumis aux membres du conseil municipal une liste de créances irrécouvrables à admettre en non-valeur. En effet, le trésorier a établi la liste numéro 4209-220212 de créances ne pouvant être recouvrées d'un montant total de 21 973,42 €. Il convient d'indiquer qu'il s'agit majoritairement de créances anciennes de plus de 5 ans et que les créances de plus de 10 ans pèsent pour 19 482 €, soit 88% des créances à admettre en non-valeur. Madame le maire précise que ces admissions en non-valeur avaient été anticipées lors du vote du BP 2020 par l'inscription d'un montant à l'article 65-41, vu l'instruction budgétaire et comptable M14, notamment la procédure relative aux créances irrécouvrables. Considérant les états des produits irrécouvrables dressés par le comptable public, considérant sa demande d'admission en non-valeur des créances n'ayant pu faire l'objet de recouvrement après mise en œuvre de toutes les voies d'exécution, considérant que les dispositions prises lors de l'admission en non-valeur par l'Assemblée délibérante ont uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité les créances irrécouvrables, dans un objectif d'apurement des comptes de la commune entrepris depuis plusieurs exercices par la municipalité, il est demandé aux membres du Conseil d'approuver l'admission en non-valeur des produits énumérés à la liste 4209-220212 dressée par le comptable public et telle qu'annexée à la présente délibération pour un montant total de 21 973,42 €. De préciser que les sommes nécessaires sont prévues au chapitre 65, article 65-41. Et bien sûr, d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires à l'application de la présente délibération. Donc, pour information, le montant global remonte jusqu'en 1999. Et qu'en 2008, le trésorier avait déjà interpellé la mairie pour faire une admission en non-valeur d'environ pratiquement 15 000 euros, qui était resté lettre morte, façon de parler. Donc il est temps peut-être de clore ses comptes. Et donc le trésorier a fait toutes les diligences pour essayer de récupérer ces montants.
Est-ce que vous avez des questions? Je vous propose de procéder au vote pour l'admission en non-valeur. Contre, abstention, approuvé, je vous remercie. Nous passons au point suivant, évaluation des charges transférées. Donc, nous n'avions pas évalué dans la CLECT et la C de la commune les charges que représentait la salle de Niponero. Du coup, une évaluation a été faite sur plusieurs années pour faire une moyenne et fixer un montant de 4 718 € de charges nettes qui correspond au fonctionnement de cette salle. Est-ce que vous avez des questions?
Le fonctionnement, là, il est réglé par la communauté de communes, par la mise à disposition du transfert ou...
Non, c'est nous qui réglons en fait. C'est-à-dire que quand on transfère un bâtiment, on transfère les charges qui vont avec.
Ouais.
Et donc même si le bâtiment est aujourd'hui fermé et qu'il ne génère pas de charges, on est remonté sur le fonctionnement de plusieurs années pour essayer de trouver une sorte de cote mal taillée, enfin, sur la réalité d'ailleurs, puisqu'en fait on a pris les factures d'assurance, d'eau, d'électricité. Et voilà, et donc ça a été travaillé avec la TD dans la même démarche que tous les autres transferts de charges qu'on a pu avoir.
Et vous ne serez pas amené à faire quelques travaux pour le maintenir en état parce qu'il est...
Mais il appartient à la communauté de communes aujourd'hui.
D'accord, ça c'est à eux de s'en charger.
Oui. Je vous propose de procéder au vote. Contre, abstention, approuvé, je vous remercie. Et juste vous préciser, sur la salle de Niponero, il y a un projet aujourd'hui de salle culturelle qui est porté par la communauté de communes. Donc nous espérons, avec impatience et suivant de près, le fait qu'il puisse se réaliser prochainement. Le point suivant, remboursement partiel des droits d'exploitation de la buvette municipale. Donc le droit d'exploitation s'élève à 200 € pour l'exploitation de cette buvette. Il faut savoir que cette année, ils ont très peu travaillé, puisque du fait aidant de l'incertitude jusqu'au bout de savoir si on allait ouvrir la piscine pour des raisons sanitaires, puis de la limitation qu'on avait mise de l'occupation de la piscine, à savoir réservée aux Riemois et aux habitants de la communauté de communes, on a eu une fréquentation qui a été extrêmement divisée, et aussi j'imagine de certaines appréhensions pour certains d'aller dans une piscine municipale avec le Covid. Du coup, ils ont très peu travaillé, ils ont fermé une bonne partie du temps puisqu'il manque de personnes, de clients. Et je voulais voir avec vous pour faire un geste et non pas leur rembourser la totalité puisque ce serait illégal puisqu'il faut bien sûr qu'il y ait une redevance de l'occupation de domaine public, mais le laisser à 1 € symbolique et par rapport aux 200 € qu'ils ont déjà versé d'ailleurs. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous voulez réagir?
L'exploitation de cette buvette, c'est...
Oui, c'est très compliqué en fait parce qu'on a très peu de candidatures.
C'est réglementé aussi.
Alors, c'est réglementé, c'est très peu, surtout, c'est pas ça qui bloque le plus les personnes, c'est du fait que en fait, ça dépend, c'est tellement tributaire de la météo, ça bloque au moins une personne toute la semaine puisqu'il faut bien tenir la buvette. Il faut faire du stock et que le moindre temps météo qui serait déplorable ferait que ils y perdraient derrière. Donc, on a eu beaucoup de mal chaque année à trouver des exploitants. Pendant un temps, c'était l'ancien propriétaire de Sun Plaza qui a dû tenir 2 ou 3 ans d'affilée. Et là, c'est Madame Joanne qui exploite la buvette. Je pense que pour l'avenir, mais ça, ce ne sera pas l'objet de ce conseil municipal, mais qu'il faudrait travailler ensemble au fait qu'on fasse une convention avec eux, ou on fait un appel à candidature pour une durée d'exploitation moins de 3 ans, pour être sûr de ne pas se reposer la question systématiquement, parce que ça pose de véritables problèmes. Là, ce que je vous propose, c'est plus un geste en soutien à cette activité économique. Mais...
Le montant total de la redevance pour l'exploitation de cette buvette, hein,
200 €.
C'était le total.
Oui. Je vous propose de procéder au vote. Contre, abstention, approuvé, je vous remercie. Le point suivant, c'est la réduction du droit de place des forains. Alors déjà, vous dire que tous les forains ont payé leur droit de place, à l'exception d'une personne qu'on relance, mais bon, je pense que c'est plus un oubli qu'autre chose. Mais ils sont venus nous trouver à l'issue de la fête foraine pour nous demander de faire un geste pour l'année prochaine au niveau des droits de place au vu des difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui. Je suis assez partagée sur la question puisque la fête foraine s'est maintenue à leur demande et on peut comprendre pourquoi, parce qu'ils ont besoin de travailler, c'est une évidence. Voilà, maintenant ils demandent cette réduction de droits de place, donc je voulais soumettre au conseil municipal et qu'on ait un débat libre à ce sujet.
Moi, je comprends un petit peu votre réticence, parce que je pense que vous avez essayé d'organiser la fête locale, vous avez vu les contraintes auxquelles vous étiez confrontés, vous avez pris vos responsabilités. Je pense que le geste aussi a été fait pour leur permettre, vu qu'ils le demandaient expressément de venir. Aujourd'hui, ce résultat de l'exploitation, il est de leur fait. Voilà, on a tous subi les conditions Covid, y compris vous en tant que maire pour prendre un certain nombre de décisions. Les forains, on ne les a pas obligés à venir. Et vous avez en fait permis que ça soit le cas. Aujourd'hui, s'ils ont une perte, ils savaient depuis la fête de Riom et le tournant de septembre, le début des fêtes, ils commencent au mois de mai. Mmh. Ils voyaient très 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 bien la tournure que prenaient les événements. C'est pas un problème c'est juste un problème d'anticipation de leur part. C'est pas quelque chose qu'ils ont découvert le 5 septembre en arrivant à Riom. Donc effectivement, je suis aussi partagé que vous, pour ne pas dire un petit peu plus.
Je propose de passer au vote. Qui est contre? S'abstient. 3 abstentions. Qui est pour? 3 avec Kachi. Ah non, et 4 avec la procuration. Valérie, tu t'abstiens? Donc 5. Et qui est pour? Une personne. Très bien. Oui. Je vous remercie. Nous passons au point suivant, convention d'occupation pour le logement T1. Donc, je vous informe juste que un des groupes de médecins m'a sollicité pour me demander si nous n'avions pas un logement à leur louer, à titre onéreux, pour accueillir un médecin remplaçant. Donc, évidemment, on avait ce logement, un logement disponible, qui est un des logements, le petit logement au-dessus de la perception. Donc, on leur fait une convention en non pas leur louant au mois, mais en leur louant sur la période de présence du médecin et avec au prorata du prix du loyer mensuel. Donc ce sera une location du 14 octobre au 24 octobre et pour un montant de 110 euros de loyer. Je vous propose de passer au vote. Contre? Abstention? Approuvé, je vous remercie. Nous passons au point suivant, recrutement d'un agent contractuel sur un emploi non permanent, accroissement temporaire d'activité. Donc on propose de recruter un agent contractuel pour une période maximale de 1 an, allant du 1er octobre au 30 septembre 2021, inclus au poste d'adjoint technique à temps complet. Est-ce que vous avez des questions?
Il me semble qu'on avait déjà délibéré début juin.
Non, c'était pour un temps de... Le contrat s'arrêtait au 31 décembre. Et donc là, ça va nous permettre de pouvoir aller un petit peu plus loin jusqu'à la rentrée prochaine.
Ok. Et, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer à quoi est employé cette...
Service technique.
Oui, ça j'ai bien compris. J'ai réussi à lire.
D'accord, pardon.
Excusez-moi. Mais c'est quoi la fonction permet cet accroissement, pour quelle activité?
Alors aujourd'hui, c'est un renfort des services techniques.
Excusez-moi.
Vas-y.
C'est personne est...
Je vous ai attendu arriver.
Pourtant, j'ai mis les chaussures discrètes. Tout d'abord, je voulais vous demander si vous étiez rassuré.
Par rapport à quoi?
Par rapport à la question que vous avez posée à l'agent technique il y a quelques semaines, à savoir qui était responsable des services techniques en tant qu'élu.
Oui, non, mais ça, je le savais, je voulais juste savoir. Non, savoir si c'est moi qui ai posé la question.
Si vous étiez rassuré, donc ça, c'est une bonne chose.
Ah oui, oui, ça, c'est pas un souci. Ça.
Bien. Merci. Donc la personne est dédiée à surtout ce qui a été pendant les trois premiers mois à faire l'entretien au niveau des herbes folles et un peu de la piscine aussi, entretenu à la piscine tous les matins. Et elle s'occupe aussi de divers travaux, des herbages, des broussaillages. Ce matin, ils ont fait de la maçonnerie. Et ils sont occupés aussi des balustrades au niveau de la piscine. À divers travaux, aller à la déchetterie, amener tous les jeudis aussi, amener les containers, parce que cette commune, des fois, ne remplit pas toujours son travail. Donc, c'est des personnes qui sont très occupées.
Je l'entends et je l'espère d'ailleurs. Ouais. Par contre, le fait de la récurrence de cet accroissement d'activité,
ouais,
est-ce
ça.
Qu'il ne vous semble pas qu'à un moment donné, en termes d'effectifs, parce que ça revient, on le voit, en termes d'effectifs, vous êtes correctement structuré au service technique, puisque
non,
c'est vous qui êtes le responsable.
Tout à fait, j'en suis parmi d'autres responsables. Mais en termes d'effectifs, on a des choix à faire. On ne veut pas se tromper. Actuellement, on a deux personnes qui sont depuis des années au service technique, qui remplissent complètement leur travail. Après, on a un problème de confiance par rapport aux nouveaux arrivants qu'il faut fidéliser, qu'il faut manager aussi. Donc, on ne veut pas se tromper. Donc, pour l'instant, ce sont des gens en contrat et qui nous donnent pour l'instant confiance. Donc, il y a quelqu'un là qui s'en va parce qu'il a trouvé un travail ailleurs. Donc, voilà. On observe et on...
Après, vous avez les gens que vous arrivez à mobiliser par rapport au statut et au contrat auquel ils répondent.
Alors, pas que, c'est qu'on a lancé aussi un appel à candidature pour avoir un encadrant des services techniques et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas eu de CV qui était satisfaisant. C'était aussi pour ça qu'on souhaitait rester sur ces contrats pour essayer d'avoir d'abord l'encadrant qui puisse faire son équipe. Parce que je pense que c'est toujours plus facile quand on peut structurer son équipe en arrivant et d'abord en voyant les forces et les faiblesses de l'équipe présente et après pouvoir recruter en fonction des domaines de compétences qu'il aura identifiés avec nous sur les nécessités pour le village.
On est bien d'accord que l'encadrant, vous ne le trouverez pas en CDD.
Bien sûr. Ça, on a conscience.
On cherche, mais on a quand même des difficultés à en trouver. On trouve beaucoup de gens pour les espaces verts. Nous, on voudrait quelqu'un qui soit un peu plus adapté sur tous les travaux. On y vient au niveau du bâtiment et on a un peu de difficulté à trouver le fait.
Il est clair qu'avec la récurrence du besoin, il va se poser à un moment la question de savoir s'il ne faut vraiment pas tenir les gens et pas leur proposer que des petits contrats, etc. De vraiment embaucher soit des titulaires, soit garder des gens.
Tout à fait d'accord.
Pas cumuler des dizaines et des dizaines de contrats cumulatifs.
Tout à fait d'accord, mais le problème est toujours, c'est qu'à partir du moment où on leur donne un statut fonctionnaire, je peux comprendre que des fois il y a un...
C'est sûr que ça bloque, mais ça pérennise aussi une situation familiale, ainsi qu'une installation dans un village, etc.
Vous avez entièrement raison, et ce n'est pas satisfaisant ni pour les agents qui travaillent à la mairie, ni pour la collectivité d'avoir des contrats précaires. Honnêtement, ce n'est vraiment pas ce qu'on souhaite. On a aujourd'hui un vrai travail à faire de structuration des services techniques. Pendant un temps, on espérait que la loi nous permette d'avoir des contrats beaucoup plus pérennes pour les agents, à savoir des contrats de 6 ans qui ont été annoncés par le gouvernement pendant un temps, qui finalement ne sortent pas pour plein de raisons, à mon avis, à la fois de lobbying de la fonction publique, mais pas que. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut revoir comment on arrive à structurer différemment avec les outils que l'on a et sans attendre des projets de loi qu'on espère, mais qui ne viennent pas.
Tout à fait, parce que la vocation d'une mairie, c'est pas de faire des contrats comme des...
Totalement. Et je partage totalement votre avis, et c'est vraiment pas un souhait, et c'était plus une espérance d'avoir un changement d'accès à différents contrats qui soient plus pérennes. Ça ne vient pas, donc il faut du coup se réorienter sur une autre organisation, mais ça n'empêchera pas de faire des contrats contractuels pendant une certaine durée, pour être sûr que la personne s'intègre et que soit...
Alors la récurrence a prouvé quand même que les contrats contractuels renouvelés sans arrêt, Ça fait, moi j'ai travaillé au service technique, hein, vous savez, je travaillais pour vous. Le fait est que pendant toute la durée, il y a toujours eu besoin d'un renouvellement contractuel. Donc la pérennisation aussi d'un contrat, de quelqu'un qui sera fixe et qui faisait affaire, aurait pu aussi se faire. Sauf que le choix a fait que ça n'a pas été choisi et décidé comme ça.
Pour des choses qui avaient été dites dès le début aux agents, puisque lorsque on recrute, on l'annonce.
Bien sûr, on
ne
fait pas de
chose.
Promesses, mais quand il y a quelqu'un qui convient ou qui
je partage tout à fait, mais il y avait un projet de loi qui était en train d'arriver et qui finalement n'a pas abouti à ce moment-là. C'était des choses qui étaient réelles, donc on pouvait espérer que ça fonctionne, ce n'est pas le cas. Donc maintenant, il faut arbitrer différemment, j'en conviens tout à fait.
D'accord, merci.
Est-ce qu'il ne vous semblerait pas pertinent, à un moment donné, je sais que le centre de gestion participe, puisque je l'ai déjà sollicité pour des services techniques, service technique de 37 agents. Donc les problématiques réelles que vous rencontrez de confiance d'abord entre l'agent à mettre en place et le profil que vous cherchez, m'est déjà arrivé de faire des commissions de recrutement avec le centre de gestion pour justement cibler réellement le profil et pour faire une recherche d'emploi et pas une offre d'emploi sur le coup. Un petit peu plus active dans ces secteurs d'activité-là, notamment avec des centres de formation qui effectivement embrassent quand même un paquet, et de pouvoir faire des comités de sélection avec ces centres-là ou directement avec la NPE ou le VETA pour à un moment donné justement ne pas se tromper et être un petit peu plus rassuré sur la confiance que disait M. Boulet, qui est quand même importante, hein, sur le sujet. Est-ce que vous ne semblez pas que cette voie-là peut-être une solution pour à un moment donné essayer de stopper un petit peu cette récurrence de contrats qui à un moment donné ne satisfait personne parce que le travail il faut le faire. Il faut aussi capitaliser l'expérience des anciens que vous avez dans les services. Et effectivement, pendant la carence de ces contrats-là, il faut bien se dire que le travail repose aussi sur ceux qui sont présents. Donc on fragilise aussi l'existant en faisant ça.
Totalement, je partage votre analyse. Pour la question du centre de gestion, on travaille avec eux déjà puisqu'on passe par eux pour les recrutements. On a déjà fait appel à eux aussi pour de l'intérim et qui permet des fois aussi de pouvoir travailler, tester la personne pour voir si elle s'intègre bien aussi dans les services. On ne l'a jamais fait pour les services techniques parce que je pense qu'ils n'ont pas forcément un vivier non plus extrêmement important, en tout cas dans les fois où on avait... Après, profil du poste.
Et les profils de poste se dégagent d'eux-mêmes et en plus, ils sont après une aide au test que vous faites passer à ces personnes-là pour pouvoir justement les mettre en concurrence et être juge réellement de la dextérité de ces gens-là.
Tout à fait. Du coup, on n'a pas voté. Je vous propose de passer au vote. Contre. Abstention. Approuvé, je vous remercie. Nous passons au point suivant. Taux promu promouvable. Pour les avancements de grade des années 2020-2021-2022. Donc, ce taux est fixé par l'Assemblée délibérante après avis du comité technique. Il peut varier de 0 à 100%. Ces modalités concernent tous les grades d'avancement pour toutes les filières, sauf ceux du cadre d'emploi des agents de police. Donc, vu l'avis favorable du comité technique intercommunal du CDG 31 en date du 23 juin 2020, je vous propose le taux d'avancement de grade pour la collectivité pour les années 2020, 2021 et 2022 à 100% pour toutes les filières et pour tous les grades d'avancement hors police municipale. Est-ce que vous avez des questions ? Je vous propose de procéder au vote. Contre ? Abstention ? Approuvé, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions diverses ?
Juste pour compléter, parce que je ne voudrais pas que M. Bouville le prenne quand même relativement mal sur le fait que je sois rassuré ou pas. Je reviens sur cette question-là parce que j'ai été au courant aussi que pendant un certain nombre de mois, ces personnels des services techniques sont restés à 4, donc pendant une grosse partie de 2019. Je sais très bien qu'ils avaient à cœur que ça change parce qu'ils avaient quand même une certaine pression. J'ai aussi remarqué lors de la présentation des élus au personnel communal qu'il manquait quand même les services techniques à l'appel lors de cette présentation. Donc effectivement, le but de ma question, il était très intéressé par rapport à leur aspect moral de, de comment ça se passait. Voilà. Donc effectivement, de ce côté-là, je suis rassuré. Et c'est pour ça que quand j'ai vu le poste arriver, je m'intéresse réellement au but recherché pour justement arriver à avoir une efficience, pas une déficience.
Non, mais nous avons un très bon contact.
Madame Meilac, je crois que vous vouliez une question.
Bon, c'était dans le cadre des questions diverses, rien à voir. Allez-y. Alors, je voulais juste revenir sur. On a adopté donc tout à l'heure le conseil, le PV du conseil municipal du 2 juillet, pendant lequel j'avais posé la question concernant les régulations de charges au niveau des primus. Question à laquelle.
Non,
en fait,
j'ai pas entendu, excusez-moi.
Pardon. J'avais posé la question concernant la régularisation des charges pour les primus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça c'est dans le PV, donc le 2 juillet, vous m'aviez répondu que donc en effet la régulation de charges dépendait de la facturation, du retard de facturation concernant les charges d'eau et d'assainissement. Or, je crois savoir, enfin non, je ne crois pas savoir, je me suis renseignée du coup, il y a une convention de signer entre les propriétaires et la mairie donc pour les locataires, d'accord, avec le syndicat. Il y a aussi une mensualisation pour tous les locataires qui, à ce jour, se sont acquittés de toutes leurs factures. Donc, alors, j'ai l'information au mois de juillet, à la facturation du mois de juillet. Hein. Je ne l'ai pas depuis le mois de juillet. Mais par contre, du coup, il n'y a pas d'impayé aujourd'hui au niveau du syndicat de l'eau. Donc, du coup, comment se fait-il que la régularisation de charges n'ait pas eu lieu ?
Sur cette année ?
Oui. Enfin, sur les deux dernières années même, je pense.
Honnêtement, quand vous me parliez de ça, je pensais que c'était sur les années passées, où on avait eu de gros soucis qui avaient été régularisés. En l'état, je n'ai pas regardé où on en était sur cette année-là, puisque normalement, le problème, j'espérais, était résolu. Puisque moi, ces problématiques de charges...
Il n'y a pas d'impayé.
Mais ces problématiques de charges, quand vous l'avez évoqué, honnêtement, c'est un sujet qu'on avait traité avec Jacques Bertin il y a maintenant au moins deux ans. Peut-être deux ans, deux, trois ans. Donc en fait, quand vous m'en avez parlé, pour moi, c'était sur cette période-là où en effet, il y avait un gros retard de la part du syndicat des eaux sur la facturation, qui nous a même mobilisés auprès du SMEA, puisqu'on s'est rendu à plusieurs reprises chez eux pour pouvoir y travailler et voir ce qui était possible de faire. Mais par contre, je n'avais pas compris que c'était à ce jour que vous m'alertiez sur ça. Donc je vous prie de m'en excuser parce que ce n'était pas du tout quelque chose que j'avais en tête. Donc je vous propose qu'on y travaille ensemble si jamais il y avait un sujet. Parce que pour moi, à ce jour, il n'y avait pas de sujet sur ça.
Est possible. Voilà, après, sur la partie CIEP, parce que la partie consommation, on a découpé en deux parties, la relève, c'est le CIEP qui le fait, et effectivement, il transmet les index au SMA qui facture sa partie assainissement, mais sur la partie CIEP, des retards de facturation, de mon ou deux, ça peut peut-être arriver sur certaines années, mais d'une période aussi importante que ça, jamais.
La facturation du SMA, c'est toujours à
Oui, mais je pense qu'il y a eu une année où j'étais intervenu pour des personnes âgées, où en fait, ils leur demandaient du N-3. Voilà.
On a eu des gros retards à un moment, je crois qu'il y a 2-3 ans. Je ne saurais plus vous dire le moment exact.
C'était l'ancien pâtissier d'ici, là. C'est des personnes âgées, heureusement que madame classait bien les choses. Et j'ai été obligé d'informer le SMA qu'effectivement, au-delà de 3 ans, ils ne peuvent pas recouvrir des sommes au-delà de 3 ans s'ils n'ont pas adressé les factures avant.
Gardez-le sur le détail.
Bien sûr. Dans les autres points, questions diverses, vous dire qu'il y a eu l'audience pour l'EHPAD le 7 septembre, qu'on n'a toujours pas la décision. Pour le moment, que sur le Linky, le retrait a été arrêté. On a eu aussi une condamnation de quelqu'un qui avait endommagé un éclairage public, qui a été condamné pour le montant de sa réparation, à savoir 3 600 €. On s'est entretenu aussi avec les architectes de la médiathèque pour stopper le projet pour le moment, en attendant de savoir un peu les impacts de la crise sanitaire, du Covid et des projets que nous devrons faire. Et enfin, nous avons aussi candidaté pour un projet porté par les services de l'État, à savoir Petite Ville de Demain, pour candidater, pour avoir un animateur, une prise en charge d'une personne qui serait prise en charge par les services d'État dans 70% pour pouvoir animer le territoire et nous accompagner notamment à la fois sur le secteur économique, mais aussi l'animation du village. Via l'élaboration d'un projet de territoire qu'on nous avons rendu. Et donc, il y a une prochaine réunion qui est prévue en sous-préfecture pour porter ce projet. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je vous propose de lever... Merci beaucoup de votre présence et je vous propose de lever la séance.